Il est 6h39 sur Europe 1. L'invité du 5-7 est ce matin la vice-présidente de la société d'exploitation de la plus grande salle de concert d'Europe, l'Arena de Paris. La Défense est près de 40 000 places. Baptiste Lorenzetti, vous deviez, vous aussi, hein, malgré cette taille gigantesque, rouvrir dès le 15 décembre, mardi. C'était ça qui était prévu?
Alors, c'était pas prévu qu'on réouvre totalement, mais c'est vrai qu'on espérait, compte tenu des éléments qu'on avait pu avoir, de pouvoir réouvrir en jauge dégradée. Parce que là aujourd'hui effectivement on joue à huis clos, c'est-à-dire sans aucun spectateur dans l'aréna, et malgré tous les protocoles qu'on a mis en place, les protocoles sanitaires cet été, on a été obligé de fermer déjà, de descendre la jauge de 5000 à 1000, puis complètement à huis clos, et on espérait un assouplissement de ces règles dans un delta de pourcentage de 25-30%.
Oui, parce que vous dites on joue à huis clos, parce que les spectacles pour l'instant sont repoussés, mais vous hébergez le rugby, le Racing 92, je précise que c'est votre famille, votre père qui en est le propriétaire. Tout est lié. Le sport et le rugby vivent aussi de cette billetterie.
Absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un business model, effectivement. L'Arena est sortie de terre aussi pour le rugby. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, on va créer une salle de spectacle dans laquelle on joue au rugby, ce qui était une invention qui n'existait pas. C'est la raison, c'est effectivement deux projets qui sont liés. On est propriétaire et organisateur des matchs. Et aujourd'hui, non seulement plus du tout sans billetterie, mais au-delà de ça, reste la question quand même de nos partenariats, de gens qui nous soutiennent encore aujourd'hui, mais qui payent finalement pour ne plus avoir de visibilité, plus de public, plus d'hospitalité, plus de possibilité d'inviter leurs clients, etc. Donc c'est une réaction en chaîne qui pour nous devient, c'est même plus catastrophique, on est dans un tsunami et chaque mois, ça, tout cela s'aggrave avec des comptes qui sont évidemment en perte
phénoménale. Les pertes de la fermeture depuis le mois de mars?
Bah écoutez, je vais me référer au recours qu'on a fait devant le Premier ministre. On est aux alentours de 25 millions de pertes.
Sur l'année écoulée?
Alors pas sur l'année écoulée, puisque on a deux demi-années, c'est-à-dire que c'est depuis mars en fait.
Voilà. Depuis le mois de mars.
On a été les premiers à fermer le 7 mars avec l'annulation de la nuit de la Bretagne. Et voilà, ce jour on a 25 millions de pertes pour la totalité de l'activité, spectacle et sport.
Vous venez de prononcer le mot recours, vous avez écrit au Premier ministre, vous menacez d'une action en justice, l'État, ça y est, vous allez la déclencher, cette action ou pas?
En réalité, sans faire de juridisme, pour attaquer l'État pour un recours indemnitaire, on est obligé de faire ce qu'on appelle une demande préalable devant les autorités. Donc c'est le but de notre lettre recommandée.
Qu'est-ce que vous demandez précisément?
On demande tout simplement, sur le fondement de la rupture d'égalité dans les charges publiques notamment, l'engagement de la responsabilité de l'État qui nous cause un préjudice grave à hauteur de nos pertes, donc de 25 millions.
Vous estimez que les restrictions qui vous ont obligé à fermer sont illégales?
Oui,
et
absolument.
Infondées.
En fait, ce que nous contestons pas en soi les mesures sanitaires, évidemment. On a tous été touchés de près ou de loin par la Covid-19. Ce que nous contestons, c'est la réglementation, la règle générale et absolue, qui n'est pas appliquée de manière spécifique en fonction des salles. Je m'explique. Par exemple, quand nous avons dû restreindre notre jauge à 1000, nous avons une salle de 40 000 personnes et nous avons été contraints d'accueillir un public maximal de 1000 personnes. Parallèlement, il y avait des concerts, notamment à la Folie Bergère, où c'est une salle de 1500 personnes qui pouvait également accueillir 1000 personnes.
Mais donc c'était pas un pourcentage de la taille.
Exactement. Donc en fait, nous contestons la règle générale et absolue qui nous a mis dans une situation très nous sommes dans une situation différenciée et cela n'a pas été pris en compte, ce qui nous porte un préjudice beaucoup plus grave qu'une salle.
Vous avez reçu des aides de l'État, vos salariés sont au chômage partiel.
Alors on a effectivement bénéficié du chômage partiel, mais on est bien en deçà de l'aide dont nous avons besoin compte tenu du paquebot qu'on dirige, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'Arena, pour un mois d'activité ou même de fermeture, ça nous coûte 1 million d'euros. Par jour, 5000 euros nous coûte tout ce qui est fluide, électricité, etc. Et même si on a travaillé fortement sur une réduction de charges, on a des charges qui sont indéniables.
Combien vous demandez à l'État? Quelle indemnisation?
À hauteur de nos pertes, 25 millions.
25 millions d'euros, vous demandez à l'État de vous rembourser vos pertes.
On nous demande.
Il faudrait le faire pour toutes les salles de concert en France?
Pardon ?
Il faudrait le faire pour toutes les salles de concert en France ?
Alors notre particularité quand même, c'est qu'on est un projet purement privé. C'est-à-dire que la construction, nous l'avons financée nous-mêmes, ainsi que l'exploitation. On est une des rares salles en France à être purement privée. Ce qui n'est pas le cas notamment de nos homologues Accor Hôtel, qui, je rappelle, appartient et sont exploités par la mairie de Paris.
Merci.
Par ailleurs, une salle comme Jean Bouin, par exemple, bénéficie d'une concession de service public. Et l'avantage qu'ils peuvent avoir dans ce type de mécanisme d'exploitation d'entités publiques, c'est qu'ils bénéficient notamment de clauses imprévisions qui leur permet d'avoir d'autres avantages, comme le non-paiement de loyer, etc., quand ils sont dans des cas de force majeure. Ce qui, en l'occurrence, est le cas. Nous, c'est un mécanisme dont on ne peut pas bénéficier, notamment, parce que nous sommes un projet purement privé. Et donc, c'est nous qui supportons, c'est-à-dire la famille Lorenzetti qui supporte les charges chaque jour.
Alors, s'il y a réouverture au mois de janvier, il y aura probablement une jauge à nouveau, notamment pour les matchs de rugby. Mais pour les concerts, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer une jauge, parce que le concert, un concert géant comme celui de Céline Dion qui est prévu au mois de mars, par exemple, n'est probablement pas rentable avec une salle un tiers remplie. Ça veut dire que ces concerts, est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas ?
Écoutez,
ceux qui sont prévus sur 2021.
On a déjà reporté effectivement tous nos concerts qui se devaient se dérouler entre mars et juillet l'année dernière, en 2020. Ceux-ci ont tous été reportés, à l'exception de McCartney qui a été annulé sur cette saison 2021. Et vraisemblablement, on ne pourra pas les maintenir tant qu'on n'aura pas de campagne massive de vaccination. Voilà, donc c'est aujourd'hui.
Donc mars sera probablement trop tôt.
Et puis en vérité, on n'en sait rien puisque nous, on a toujours un petit peu l'impression d'avoir le couperet qui est là. On nous dit que ça va être assoupli. On a fait des investissements assez importants pendant l'été pour pouvoir réouvrir à 5 000, alors même qu'à 5 000 nous sommes déficitaires. Donc on ne sait pas du tout ce que le gouvernement va nous dicter, mais en tout état de cause, on est les derniers qui allons réouvrir.
Merci beaucoup. Pardon de vous avoir coupé, mais on est vraiment au bout. Merci beaucoup, Mathilde Lorenzetti, d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Société d'exploitation de la Défense, Paris Arena. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.